Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Stéphane Hugon du cabinet Eranos. Donc tu es sociologue.
C'est ça.
Et tu es un cabinet de conseil en sociologie, qui accompagne des marques dans leurs problématiques d'ethnologie. Et j'avais envie qu'on aborde un sujet aujourd'hui qui est, je pense, un sujet qui nourrit beaucoup de conversations dans les dîners, qui nourrit beaucoup de disputes dans les couples ou avec les enfants, ou les ados en l'occurrence, qui est l'impact du smartphone dans les générations. Et en fait, il y a eu cet article que beaucoup de monde a lu et que je sais que tu as lu et que moi j'ai évidemment lu dans The Atlantic en septembre 2017, qui disait, qui posait la question, est-ce que les smartphones ont détruit une génération? En prenant en particulier une phrase, enfin moi il y a une phrase qui m'a marqué qui était... d'une adolescente qui disait finalement je préfère mon smartphone à certains de mes amis, donc si je devais me priver complètement de smartphone, il y a certains amis je préférais me priver de certains amis plutôt que de mon smartphone. Et en même temps, je voudrais qu'on dépasse cette idée selon laquelle les smartphones ça rend les gens débiles, etc., ce qui est sans doute vrai en partie, mais je pense qu'il y a beaucoup plus et c'est beaucoup plus intéressant que ça, l'impact du smartphone sur les générations. Donc je sais pas si j'ai une bonne première question. Peut-être on parlait tout à l'heure de la manière dont après-guerre les sociétés se sont construites. On va peut-être partir de là et puis après repartir sur le smartphone.
Oui, je crois que c'est bien pour bien comprendre ce phénomène-là, dont on a l'impression qu'il est actuel, qui se passe aujourd'hui, ici et maintenant. Pour bien le comprendre, il faut peut-être essayer de le remettre un peu en perspective par rapport à une histoire des relations entre les personnes, oui, mais aussi de la place des objets techniques comme médiation entre les personnes, très justement. Et ce que tu dis est juste, si on essaie de repartir à partir des années 50, on a quand même tout un imaginaire et une quête, une volonté, un imaginaire qui passe à travers, par exemple, la culture hollywoodienne, qui passe dans l'apprentissage des écoles et qui est aussi une valeur de société, mais aussi des manières de travailler et qui nous oriente vers l'idée de se construire soi-même, de construire un individu, d'être dans l'émancipation individuelle, d'être dans la libération, dans l'autonomie, dont il faut rappeler l'étymologie, autonomos, ma propre loi. D'accord. Donc effectivement, on est dans une espèce de fascination de notre imaginaire occidental sur le fait de se détacher des autres et pour exister par soi et pour soi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est une dynamique très forte qui va couvrir plusieurs générations avec une dimension forte qui va être la place de la techno là-dedans. C'est-à-dire que la technologie va être cet objet magique qui nous permet très justement de ne pas subir et au contraire d'augmenter notre pouvoir sur notre environnement et notamment notre environnement social. Et donc ça c'est quand même un background culturel très fort et qui va aboutir au milieu des années 90 à un point de saturation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est allé tellement loin dans l'individualisation, dans le besoin de libération, qu'on a découvert quelque chose qui est, à mon avis, insurmontable et pour le consommateur, et pour le collaborateur, et pour le citoyen, c'est le vide. C'est l'ennui, en
ouais,
fait.
Voilà. La peur de l'ennui.
La peur de l'ennui. À un moment donné, on a fait l'expérience du vide. À force de ne pas vouloir subir les autres, on s'est rendu compte qu'on a déconstruit les systèmes religieux, on a déconstruit le politique, en France en particulier, où l'abstention et la critique vis-à-vis du politique est très forte. Ouais. Donc en fait, tous les lieux où on trouvait un accomplissement de soi ont été un peu chahutés. On dit classiquement chez les sociologues qu'il y a 5 grandes scènes sociales dans lesquelles on s'accomplit en tant que personne. Donc il y a la famille, il y a l'espace du sacré, le religieux, il y a aussi l'espace du travail, il y a l'espace du militantisme et l'espace de la vie publique. Et dans ces 5 sphères-là, qui ont été extrêmement importantes pour plus que les années 50, mais on pouvait dire quasiment une grande partie du 19e et du 20e siècle, on devenait véritablement quelqu'un quand on était un père de famille, quand on était qu'on allait à l'église, qu'on était reconnu dans son travail, qu'on était un bon militant, le syndicalisme était quand même très fort, pas l'oublier, de la fin du 19e jusqu'aux années 70. Donc c'était des scènes sociales où on devenait quelqu'un. Et en fait, il y a un déplacement de cette énergie-là vers d'autres espaces et qui vont rendre finalement ces espaces sociaux et qui va les laisser comme des coquilles vides. Donc il y a quelque chose de très fort qui va se jouer, à mon avis, à partir des années 90 et qui fait qu'à un moment donné, on ne veut plus s'émanciper, on ne veut plus se détacher de la masse, on ne veut plus échapper à une emprise familiale, on ne veut plus de liberté. Ça peut paraître paradoxal.
Ouais, c'est paradoxal. Hein.
On ne veut plus de liberté. Au contraire, la liberté nous a amené à quelque chose qui est l'ennui. Donc, en fait, d'un seul coup, on est confronté au vide. Quand on n'a plus la même relation avec les parents, quand on a déconstruit l'autorité du chef, quand on a déconstruit l'autorité du politique, quand finalement on n'a plus de relation forte avec les uns et les autres, d'un seul coup, on est confronté au vide. Et là, j'irais presque par principe de survie, on va avoir une soif, je pense que c'est ça ce qui va pousser pour moi tout le digital, on va avoir une soif extraordinaire de vouloir retrouver du lien de partage avec les autres. Voilà.
D'accord.
Et d'un seul coup, l'objet technique va devenir la promesse que je fais partie d'une scène sociale, plus celle que j'ai évoquée, hein, les 5 sphères, mais d'autres scènes sociales. Les amis, la tribu, le territoire, ouais, ma communauté, etc.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cet humoriste américain qui s'appelle Louis C.K., qui décrit ça en disant le smartphone, mais emmerdez-vous, quoi. Enfin, arrêtez d'être toujours avec votre... Parce qu'en fait, finalement, le téléphone, il a remplacé un petit peu la cigarette. C'est-à-dire que vous êtes au restaurant, quelqu'un va aux toilettes, hop, vous prenez votre téléphone pour vous donner un peu de constance. Pas que ça soit très intéressant ce qui s'y passe, mais vous regardez. Et ça, il y a quand même ce truc de remplir le vide dans le rôle du téléphone.
Exactement, exactement. Et de ma génération, il y avait encore, moi qui suis sur la bascule, si je veux dire, la grande bascule, dans mon adolescence, il y avait encore ce mythe comme ça, un peu du ténébreux, du romantique, du personnage, parce qu'il est seul, il inspire une forme de charisme, en fait. Ouais. Il y avait ça. Et finalement, je parlais de la culture hollywoodienne tout à l'heure, mais on nous a servi des héros qui étaient des héros solitaires, finalement, qui tout seuls refaisaient le monde ou déjouaient des choses, corrigeaient la perfection du monde, etc. Et à un moment donné, ça, même dans la culture cinématographique, littéraire, ça a basculé. Aujourd'hui, on n'est plus tout seul, parce que, exactement comme tu as dit, on a besoin de se rattacher à quelque chose. Et sur le fond, si pour devenir quelqu'un auparavant, il fallait prouver qu'on ne subissait pas les autres. Aujourd'hui, pour devenir quelqu'un, il faut prouver qu'on appartient d'une certaine manière, au regard de l'autre.
Qu'on appartient, mais surtout qu'on domine. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est pas tant... Enfin, moi, j'ai la sensation que chaque humain qui possède un smartphone, en tout cas dans la société occidentale, mais je pense que ça dépasse largement la société occidentale, tu deviens une marque. Et finalement, aujourd'hui, ta présence sur les réseaux sociaux, c'est ta marque que tu construis, comme une marque pourrait le faire d'ailleurs. Et finalement, tu veux dominer, c'est tout relatif, mais en fait, montrer que tu es une figure parmi la communauté qui te semble, toi, la plus représentative, en tout cas.
Alors oui, avec cette dimension un peu paradoxale, c'est que, prenons par exemple un selfie, ouais, le selfie ne s'accomplit de lui-même que s'il est partagé.
Bien sûr.
Donc ça veut dire que c'est par le regard de l'autre que je deviens véritablement moi-même, c'est-à-dire ce que j'aimerais que les autres pensent de moi. Mm-hmm. Donc il y a une dimension de fiction qui est très forte finalement. Mm-hmm. Et y a ce jeu de représentation croisée, il va nécessiter qu'il y ait à la fois une construction de soi, mm-hmm. une sorte de rôle en fait, ouais. et en même temps qu'il y ait un public dont on a d'abord un public un peu aspirationnel, c'est-à-dire un public de référence auquel on aimerait ressembler et mm-hmm. auquel on aimerait plaire, parce qu'il y a une logique de la reconnaissance de soi dans le regard de l'autre. Mmh, mmh. Et du coup, la notion de partage va être absolument centrale, ce qui va donner quelque chose de très paradoxal par rapport à ce qui, à mon avis, est souvent ce qu'on attribue au smartphone, parce qu'on va y revenir.
Oui, bien sûr, on va y revenir.
Comme étant non pas l'instrument de la distinction de soi, c'est-à-dire ce par quoi je suis différent des autres, mmh. mais au contraire, comme un espace de médiation qui me permet de me réintégrer et de me recontextualiser dans ce petit territoire affectif, relationnel. Je dis affectif parce que les psys s'y sont penchés à ces objets-là, qui sont des promesses de relations. J'y pense à l'instant, notamment Winnicott, qui est... un psy qui a apporté la notion de l'objet transitionnel, par exemple, et qui permet, qui montre comment le doudou, par exemple, est un objet qui est la symbolisation de la présence de la mère, en fait. Et que dans le détachement de l'enfant par rapport à sa mère, qui va passer par différentes étapes qui sont bien connues chez les psys, il y a une des étapes qui est un espèce d'entre-deux et qui consiste à accepter l'absence de sa mère en substituant à sa mère un objet qui porte soit son odeur, soit... voilà. Et du coup, ça n'est jamais qu'une substitution, qu'une étape, en fait, qu'une sorte d'ersatz, si je puis dire.
Et du coup, d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans l'article, comme ils expliquent que finalement, le smartphone, tu as l'impression d'être en relation avec les autres, mais en fait, tu es tout seul. Et en fait, on se rend compte, et c'est ce qu'ils expliquent dans l'article, qui est assez long, mais qui est hyper intéressant, qui dit que finalement, les jeunes, les ados, vraiment, restent beaucoup plus dans leur chambre. Ils s'enferment, ils ont peur, ils perdent leur virginité beaucoup plus tard, ils passent le permis de conduire quand leurs parents leur demandent de le faire, alors qu'avant on avait quand même cette soif d'évasion, entre guillemets. Alors est-ce que c'est une image un peu unidirectionnelle du smartphone, ou est-ce que c'est une tendance de fond? Parce qu'en fait, ils s'appuient quand même sur des statistiques qui sont hyper fortes, c'est-à-dire un taux de suicide qui augmente beaucoup plus fortement chez les jeunes, un taux de bonheur qui se réduit quand les gens ont leur smartphone. Enfin, plus les ados ont leur smartphone, moins ils sont heureux. Donc, il y a quand même des grosses tendances qu'on voit. Est-ce que ça, c'est une vision un peu, pas anecdotique, mais en tout cas partielle du smartphone? Ou est-ce que, parce que tout n'est pas aussi simple, ce que je disais au tout début, mais comment toi, t'envisages les choses d'un point de vue sociologique?
Effectivement, il y a une dimension... Il y a quand même ces objets qui sont, comme je disais, la promesse de l'autre. Donc, je pourrais dire un objet relationnel.